Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, il se trouve que c'est la journée mondiale sans tabac ce mercredi 31 mai. Un reportage pour annoncer le 5e Refugee Food Festival du 6 au 13 juin à Rennes. Il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion d'une visite guidée à la découverte des œuvres d'art de la ligne B de métro. Et puis une recommandation, c'est l'association Ballsy qui met le basket féminin en lumière ce week-end. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Allez, on commence comme chaque jour avec l'info du jour. Ce mercredi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé lancée il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, en France, 30% des 18-75 ans déclarent fumer. Et même si la consommation est en baisse grâce aux politiques publiques dissuasives, il faut le dire, on compte toujours 75 000 décès dus au tabac chaque année. Et pour compléter le tableau, il faut dire que la Bretagne, eh bien, c'est l'un des mauvais élèves du pays. C'est en tout cas là où la baisse des ventes est la moins forte, moins 19,7% entre 2017 et 2022, contre 30% dans les meilleures régions. Des chiffres qui sont issus du dernier rapport sur le tabagisme et l'arrêt du tabac, publié la semaine dernière. Parmi les facteurs explicatifs, il semblerait que les régions avec des baisses de ventes importantes soient en fait les territoires frontaliers à des pays où le tabac coûte moins cher. Mais d'après la médecin tabacologue du CHU de Rennes, qui se confie à France 3, il y a quand même une amélioration de la situation en Bretagne, notamment sur la question des jeunes fumeurs et des femmes enceintes. Qui rappelle également, cette tabacologue, qu'on n'est pas tous égaux face au tabagisme et que le déterminisme social reste fort. Pour obtenir de l'aide, si vous souhaitez arrêter de fumer, il y a un numéro gratuit, le 3938, également la plateforme Tabac Info Service. On rappelle que 2023 marque le lancement du troisième programme national de lutte contre le tabac, avec l'ambition de faire émerger une première génération sans tabac d'ici 2032. Je termine avec un mot sur l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, qui a profité de cette journée mondiale sans tabac pour fêter les 5 ans de son campus sans tabac. Plusieurs animations se sont déroulées sur le temps du midi. Cet établissement, il est implanté sur le campus de l'université Rennes 2 et ça a été le premier établissement français d'enseignement supérieur et de recherche à s'engager dans cette démarche en 2018. Alors c'est quoi un campus sans tabac concrètement ? Eh bien c'est proposer des aides gratuites aux apprenants et au personnel pour réduire ou arrêter le tabac, notamment avec des ateliers de sophrologie. Il y a aussi tout un volet communautaire et puis un projet de recherche pour développer les campus sans tabac ailleurs en France. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'un reportage. Et c'est Marjolaine, étudiante en stage de la Skol Radio, qui annonce la 5e édition du Refugee Food Festival, un événement créé en 2016 et qui est proposé aujourd'hui dans 13 villes de France et de Suisse. À Rennes, ça se passe du 6 au 13 juin, un peu avant la journée mondiale des réfugiés qui a lieu, elle, le 20 juin. Et très concrètement, ce sont 4 restaurateurs qui proposeront des collaborations à 4 mains avec des cuisiniers réfugiés. Aperçu tout de suite en reportage et pour plus d'infos, il y a le site refugee-food.org.
Un festival à manger pour aider à combattre les inégalités et les préjugés contre les réfugiés, ça existe et ça s'appelle le Refugee Food Festival. Il aura lieu à Rennes du 6 au 13 juin. On s'est rendu mardi au lancement du festival, il avait lieu dans le restaurant Les Récupérables et j'y ai fait la rencontre de la coordinatrice du festival. Elle nous en explique le concept.
Du coup, je suis Caroline Cadou, je suis coordinatrice du Refugee Food Festival à Rennes et je travaille pour l'association Refugee Food.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on est là actuellement ?
Donc là, on se trouve dans le restaurant Les Récupérables à Rennes, qui participe cette année au Refugee Food Festival, qui est une des 6 adresses qui participent au festival à Rennes.
Et est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est, en quoi ça consiste le Refugee Food Festival ?
Le Refugee Food Festival, c'est une initiative citoyenne qui consiste en fait à créer des collaborations culinaires dans des restaurants ou des tiers-lieux ou des cantines de quartier entre des cuisiniers réfugiés, et des restaurateurs installés dans leurs restaurants. L'idée, c'est de créer du coup des menus fusion entre la cuisine du chef accueillant et la cuisine du cuisinier réfugié qui est accueilli pour la collab.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va s'articuler du coup le festival ?
Alors le Refugee Food Festival, c'est un événement national, donc en juin, ça se déroule sur 3 semaines, autour du 20 juin qui est la journée mondiale des réfugiés. Et il y a donc 13 villes qui participent en France et en Suisse, on a aussi Genève qui participe. Dont Rennes fait partie, mais du coup ça veut dire qu'à l'échelle nationale il y a une centaine de restaurants et de lieux qui participent, et ici à Rennes il y a 5 ou 6 restaurants qui participent. Il y a Faisy, il y a le Jardin Moderne, les Récupérables, la Petite Ours, et j'espère que j'oublie personne. Et il y a aussi 2 ateliers de cuisine qui seront proposés à la Parcheminerie et aux Cartoucheries, qui seront animés par Adil et par Dania, 2 ateliers de cuisine syrienne. Voilà, et l'objectif, c'est que du coup, des lieux hyper variés puissent accueillir le festival, et ça va de la cantine de quartier au restaurant étoilé. On a 5 restaurants étoilés dans la programmation nationale qui participent cette année.
Et j'ai vu que vous proposiez aussi d'autres alternatives en dehors de ce festival à manger. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi de ce que propose l'association Refugee Food ?
Alors c'est vrai que le festival, c'est l'initiative première de l'association, mais depuis Refugee Food, donc l'association a aussi développé tout un tas d'autres projets et d'actions qui ont les mêmes objectifs de sensibilisation et de changement des regards qui sont portés sur les personnes réfugiées, et également d'aider les personnes réfugiées dans leur insertion professionnelle et sociale en France dans le milieu de la restauration. Et donc pour ça, on a ouvert, on a 2 restaurants d'insertion à Paris. Un restaurant qui s'appelle La Résidence à Grande Contrôle dans le 12e, et un restaurant qui s'appelle La Cantine des Arbustes, qui est un restaurant solidaire où tout le monde mange la même chose mais pas au même prix, dans le 14e à Paris. Et on a aussi lancé des formations professionnelles pour former les personnes réfugiées au métier de la restauration, donc au métier de commis de cuisine. Qui s'appelle Sésame et Tournesol. Et j'oublie des choses, on a aussi un dispositif d'aide alimentaire pour fournir des repas à des personnes en situation de précarité à Paris également. Et on a également un service traiteur qui s'appelle Refugee Food et qui propose à des entreprises à Paris de pouvoir réaliser tout un tas de prestations du cocktail au dîner assis.
Et toujours avec les personnes cuisinières et cuisiniers réfugiés qui font partie de l'association Refugee Food.
Oui, exactement. Dans nos restaurants d'insertion, on a des personnes qui sont réfugiées, qui sont en contrat d'insertion dans la brigade, qui sont commis de cuisine. Là, on a dans nos différentes cuisines, on compte 20 cuisinières et cuisiniers réfugiés en contrat d'insertion. Et contrat d'insertion, ça veut dire qu'on leur propose un contrat de travail assez classique, mais qu'en plus de ce contrat de travail, il y a un accompagnement qui leur est proposé par une travailleuse sociale et une chargée d'insertion professionnelle qui les aide à avancer sur des problématiques autres que le travail, notamment d'accès au logement ou d'accès à la santé, ou qui les aide également à construire leur projet professionnel. Ça va être quoi la suite pour eux, une fois leur expérience chez Refugee Food terminée, dans quel type de restaurant ils ont envie de s'orienter, etc., etc.
L'association Refugee Food base son travail sur le vivre ensemble. Cette association a la conviction que la construction d'une société apaisée repose notamment sur la mobilisation de ses citoyens envers les personnes réfugiées, mais aussi l'accès aux droits essentiels et à la formation de ces dites personnes.
Du coup, le festival existe depuis 2016 et qu'il a permis d'accompagner 350 personnes réfugiées. Et parmi ces 350 personnes, plein de belles histoires et de belles trajectoires, vous pouvez en retrouver une partie.
Dans ce contexte, nombreux chefs réfugiés sont donc mobilisés durant le festival et aussi à d'autres temps, comme nous l'a expliqué Caroline. Et c'est comme ça que j'ai pu faire la rencontre d'Adil, une des chefs qui cuisinera pendant ce festival.
Je m'appelle Adil, je l'ai Lati. J'arrive en France depuis 2017, août. J'impiale au cuisinier. Je vous travaille au cuisine après. Je cherche un travail maintenant.
Comment est-ce que vous avez connu l'association Refugee Food ?
Et j'ai fait le festival 2 fois, 2 années, 2020 et 2021. Je connais avec l'assistante sociale et elle a goûté mon cousine. Après, elle m'a dit c'est très bon, est-ce que tu peux participer? J'ai dit oui, ok. Et après, j'ai essayé 2 fois.
Et ça s'est bien passé les...
Ah, c'est très bien passé. Et très je suis très contente pour le travail avec vous. Oui.
Et est-ce que vous connaissiez la cuisine française avant de venir en France?
Ah non.
Pas du tout?
Non, pas du tout.
Et vous pensez que ça va bien du coup avec la cuisine syrienne? Ça se marie bien?
C'est pas la même goûter, mais on a essayé parce que je travaille avec... quelqu'un, il s'appelle Elodie, on a travaillé un petit peu le cuisine français et c'est très bon aussi. Mais c'est pas la même goûter, c'est pas le même plat aussi.
C'est très différent, oui.
Oui, c'est très différent. Kebab, oui. Je prépare un petit peu aujourd'hui le kebenaye et c'est très bon, c'est vraiment c'est magnifique. C'est vrai. Ça sera parti pour la semaine prochaine aussi. Je voulais faire, oui bien sûr, je voulais faire un petit dessert la semaine prochaine. Vraiment c'est magnifique, c'est très bon le goûter et vous devez essayer.
On doit venir pour le goûter, oui, absolument.
Absolument.
Il s'appelle comment ce dessert?
Atayef.
Atayef.
Oui.
Il y a quoi dedans?
Fromage ricotta.
Adil animera un atelier de cuisine franco-syrienne le 10 juin à 10h aux Cartoucheries. Faire un lancement de festival à manger sans nourriture, ça n'aurait pas de sens. C'est donc au restaurant Les Récupérables que l'on s'est réunis. Adil a cuisiné des kébés avec l'équipe du restaurant. Si vous n'êtes pas familier avec ce plat, je vous le conseille fortement. Sarah, une des gérantes des Récupérables, a bien voulu nous parler au micro.
Oui, je suis Sarah, l'une des co-gérantes du restaurant Les Récupérables qui a ouvert il y a un petit peu moins d'un an.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept du restaurant Les Récupérables?
Oui, l'idée c'était de créer un commerce avec de la seconde main. Le mobilier, la vaisselle, le matériel en cuisine qui reste récent pour des questions de consommation d'énergie. Et on a aussi pour ambition de récupérer davantage dans l'assiette des produits qui sont invendus de la part de nos maraîchers, donc en solidarité avec eux sur leur production pour laquelle ils ont fourni autant de travail que pour leur production vendue.
Donc de la salle à l'assiette, essayer de récupérer le plus possible.
Exactement.
Du coup, là, on se trouve aussi au Récupérable à l'occasion du cocktail pour le lancement du festival Refugee Food Festival. Comment est-ce que vous êtes devenue partenaire de ce festival?
C'est Manon, une des bénévoles du festival qui habite juste à côté du restaurant, qui est venue nous voir pour savoir si on souhaitait participer. Et nous, on y a participé en tant que client l'année dernière avec Sylvia, mon associée. Et on adore le concept, on avait très envie de le faire et d'avoir un cours de cuisine, d'une cuisine qu'on ne connaît pas du tout dans notre cuisine à nous.
Est-ce que vous avez un mot peut-être aux gens qui nous écoutent pour leur donner envie peut-être de venir découvrir ce festival?
Oui, c'est sortir un peu de sa zone de confort, pouvoir déguster des choses qu'on ne peut pas déguster à d'autres moments et goûter des nouvelles saveurs et découvrir tout simplement une autre cuisine, quoi. C'est vraiment, il faut sortir de sa zone de confort.
Super.
Le festival, donc je le rappelle, aura lieu du 6 au 13 juin à Rennes, dans 6 restaurants rennais. Il y aura aussi 2 ateliers de cuisine et si vous êtes intéressé par les repas ou ateliers, il est fortement conseillé de réserver et rapidement. Vous retrouverez toutes les informations sur le site refugee-food.org. Je vous laisse avec le mot de fin de Caroline, la coordinatrice.
Je pense que notre plus grosse conviction chez Refugee Food, c'est que la cuisine, c'est un langage vraiment universel. À la fois assez intime, parce qu'on peut raconter beaucoup de qui on est avec la cuisine, et en même temps hyper universel, on a tous le besoin vital de manger, et surtout en France, c'est quand même un sujet qui nous rassemble. Donc c'est aussi pour ça qu'on pense que le festival, c'est le meilleur moyen de se rassembler et de le faire autour de la table.
I feel like a sail when I'm looking around for some wind to move me. true. There's not much I can catch, but it's true when I do. Feels good to let something use me. But I don't. I don't blame you. Over the ridge and into town, and I feel so lonely. I spend and I swim and I sing and I don't feel a thing until the morning. I get back again.
I Don't Blame You par Sam Burton, une nouveauté musicale qui a été choisie par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B. C'est un extrait du prochain album de l'artiste Dear Departed, un disque attendu pour le 14 juillet et produit par Partisan Records. C'est le deuxième disque de ce songwriter folk américain. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur notre site canalb.fr. On passe tout de suite à un second reportage qui est en fait une rediffusion, je vous l'avoue. Vous avez déjà entendu cette visite guidée sonore le 15 mai dernier dans cette émission d'Info Locale. Rappelez-vous, la ligne B du métro rennais, elle a été inaugurée en grande pompe le 20 septembre 2022. Mais dès 2021, des œuvres d'art ont commencé à s'installer sur son itinéraire. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 7. Une commande d'art public de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, auprès d'artistes mondialement connus et en lien étroit avec des artisans du territoire. Visite menée par Claire Lignereux, responsable des collections art contemporain au Musée des Beaux-Arts de Rennes, et puis par Antoine Chaudet, chargé de mission art visuel au sein de la direction de la culture de la ville et de Rennes Métropole.
On est à la gare, au pied de la statue de Jean-Marie Apriou, qui est la première statue qui a été posée dans le cadre de la commande d'œuvres de la ligne B du métro. Antoine Chaudet, chargé de mission art visuel pour la direction de la culture, ville de Rennes et Rennes Métropole. En juin 2021, avant l'ouverture même de la ligne B du métro. Et c'est une sculpture qui est intéressante parce que elle reprend une tradition de la sculpture équestre et elle nous parle au travers du cheval aussi du déplacement à un endroit où on est à la connexion de plusieurs moyens de déplacement, le train, le métro, les lignes de bus, une station de taxi et puis tous les autres moyens de transport qu'on connaît à Rennes.
Le cheval de la gare, il s'appelle Morvarche, du nom de la monture du roi de Bretagne Gradelon, qui avait le don de marcher sur l'eau, et ses longues jambes ondulantes représentent en fait le reflet du cheval dans l'eau.
On trouve 7 œuvres d'art, il y en a 2 à chacune des extrémités, à Saint-Jacques et à Cesson. On a donc une œuvre à la gare ici. On a une œuvre qui est cachée dans le tunnel du métro, ça c'est assez exceptionnel, mais il faut être à l'intérieur de la rame en mouvement pour pouvoir l'apercevoir. Une œuvre à la station Sainte-Anne, une œuvre à la station Gros-Chêne, une œuvre à la station Joliot-Curie.
Ce qui a motivé, on va dire, ce projet d'offrir des œuvres d'art à la vue du public, des habitants, c'est qu'il y a déjà une tradition qui est installée d'art public dans la ville de Rennes.
C'est vrai que cette commande, elle a un caractère exceptionnel de par son ampleur. Elle a atterri parce qu'effectivement, il y a une histoire de la commande d'art public à Rennes et aujourd'hui à Rennes Métropole. Il se trouve qu'il y a le 1% artistique, qui est un dispositif connu quand on construit un bâtiment public. Il y a cette obligation de dédier 1% du budget à la commande d'une œuvre d'art. C'est une manière de soutenir la création contemporaine en France. Et certaines villes, comme Rennes, sont proactives. C'est-à-dire qu'au-delà de l'obligation, vont sur certaines opérations d'aménagement urbain ou de construction d'une ligne de métro, par exemple, faire une commande d'œuvre d'art, même si ce n'est pas une disposition légale et obligatoire. Donc là, on est dans ce cadre-là, c'est-à-dire que c'est vraiment une commande volontariste. On a fait de l'arrivée de cette ligne de métro une opportunité pour faire une commande d'ampleur.
C'est quoi le rôle du Musée des Beaux-Arts là-dedans? C'est le moment où on explique qu'il y a eu un comité, c'est ça, pour sélectionner les œuvres d'art?
Oui, l'ancienne directrice et l'actuel directeur du Musée des Beaux-Arts ont fait partie du jury qui a été mis en place pour sélectionner les artistes à qui on allait passer commande. Claire Lignereux, responsable art moderne et contemporain au Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Avec qui d'autre dans ce comité? Combien de personnes?
Sophie Kaplan, directrice de la Criée, Odile Leborgne, qui est directrice de l'ESAB site de Rennes, Olivier Lerche, qui est conseiller aux arts plastiques à la DRAC Bretagne. Et puis ce comité, il avait une direction, ça c'est aussi assez particulier, mais compte tenu de l'ampleur de cette commande, il a été fait le choix de déléguer cette direction artistique à Xavier Douroux, puis Franck Gautreau, qui sont les co-directeurs du consortium à Dijon, qui sont des personnes qui ont une grande expertise, une bonne connaissance de la création contemporaine, un réseau qui leur a permis de faire des propositions au comité artistique. Et ensuite, l'ensemble des personnes qui constituaient ce comité a émis un avis sur les propositions qui étaient faites pour trouver l'œuvre qui allait se relier au contexte d'implantation de l'œuvre. Ça, c'est quelque chose d'important et qu'on va retrouver comme un filigrane, mais il y a eu un travail vraiment très fort de fait pour que ces œuvres, elles dialoguent avec leur contexte d'implantation.
On peut donner un exemple de la façon dont ça dialogue?
L'œuvre de Philippe King, par exemple, à Saint-Jacques-Guetté, là, va entretenir un rapport formel avec son contexte. C'est-à-dire que, par le choix des couleurs, des formes, l'artiste a créé un contraste très fort avec une architecture extrêmement contemporaine, très, très minimale, presque froide dans les couleurs qui ont été choisies et les matières. Et puis, un environnement qui est resté aussi très naturel à la Courrouze. Donc, on a 3 éléments qui, d'un point de vue formel, dialoguent de par leur contraste.
Je donne peut-être le budget, plus de 2 millions d'euros consacrés donc à l'investissement dans ces 7 œuvres d'art sur la ligne B du métro ici à Rennes. Sur le choix des artistes nationaux, internationaux, il y a peut-être des locaux?
C'est très varié. Ici, avec Jean-Marie Apriou, on a un artiste natif de Bretagne qui s'est formé à l'École des Beaux-Arts de Rennes et qui vit et travaille aujourd'hui à Paris. Mais par ailleurs, on a aussi des artistes français et internationaux. Je pense à des Suisses comme Hugo Rondinon ou Valentin Caron. Je pense aussi à Camila Oliveira Ferclou, qui est native du Brésil, à Philippe King, qui est britannique et qui est décédé en 2021, qui est aussi un artiste d'envergure mondiale. On se trouve maintenant dans la station Saint-Germain et on va aller voir une œuvre qui n'est visible que depuis le métro en mouvement puisqu'elle se situe dans le tunnel entre la station Saint-Germain et la station Sainte-Anne. C'est une installation vidéo de Charles Demeaux qui s'intitule Bestiaire. Elle est très fugace, donc il faut vraiment la guetter à chaque fois. Elle est nouvelle à chaque fois puisqu'en fait il a enregistré une centaine d'images d'animaux en mouvement qui vont être projetées de manière aléatoire sur plusieurs écrans qui se trouvent sur les 2 parois du tunnel. En fait, c'est très paradoxal ce qu'a voulu faire Charles Demeaux, parce qu'on est dans un côté hyper technologique, à la fois avec ce métro automatisé et ses installations vidéo, mais en même temps, il revient à quelque chose de très ancestral, puisque son inspiration, c'était les peintures pariétales préhistoriques dans les grottes, avec des peintures d'animaux, justement, qui fascinaient les humains. Et donc, il a joué complètement dans ce côté tellurique, on est dans des cavités au centre de la Terre, pour revenir à cette inspiration-là. Ce qui nous force finalement, en tant que voyageurs dans le métro, à se mettre nous-mêmes dans une position de guetter ces animaux.
On peut se mettre tout devant.
Les écrans vont se situer alternativement. Alors là, on vient de la station Saint-Germain, on va vers Sainte-Anne, à droite, puis à gauche, puis de nouveau à droite.
Ces œuvres d'art, elles peuvent aussi, alors faut que ça s'installe, mais servir de repère aux habitants dans la ville. Mais encore faut-il qu'elles soient identifiées. Est-ce que les habitants ont peut-être tendance à passer devant sans s'arrêter, sans peut-être avoir aussi l'information sur ce qu'ils voient? Est-ce qu'il y a un travail qui est pensé pour faire la médiation culturelle auprès des habitants?
Oui, il y a tout un travail de médiation qui est mis en place, à commencer par des cartels qui sont posés à proximité des œuvres, à des endroits visibles. Ce sont des cartels qui sont au format A3, donc on est sur des dimensions qui permettent d'être bien identifiés dans un espace urbain où il y a aussi un ensemble d'autres signes visibles et qui peuvent attirer l'attention des personnes qui fréquentent cet espace. Il y a des visites qui sont organisées par notre service médiation, par Destination Rennes aussi. Et puis sur cette question de l'appropriation, évidemment, tout est très différent en fonction de chacune des œuvres. L'œuvre de Jean-Marie Apriou, elle a mis un petit peu de temps à atterrir. Elle a été l'objet de beaucoup de critiques la première semaine où elle a atterri sur site. Elle a même été dégradée avec un graffiti qui explicitement disait que voilà, elle était moche. Et puis, au fur et à mesure, les personnes qui fréquentent ce lieu, alors qui sont des Rennaises, des Rennais, mais aussi des personnes qui arrivent à Rennes par le train, par la gare, se l'approprient. C'est devenu un endroit où il y a beaucoup de selfies qui sont réalisées et elle est accessible. C'est-à-dire qu'on peut aller au pied de la sculpture, la toucher. C'était aussi un des objectifs de l'artiste. On peut la toucher, elle est dans une matière assez particulière, c'est de la fonte d'aluminium. C'est un métal qui est assez froid, qui normalement est très lisse. Et là, il était traité de manière très rugueuse. C'est-à-dire qu'on sent l'approche tactile, manuelle, de l'artiste, on sent son geste et donc on peut par là toucher aussi la matière et presque le geste artistique, et il y a quelque chose de très sensoriel autour de cette œuvre.
L'objectif de la commande publique, c'est évidemment de créer des repères dans l'espace urbain, de jalonner un parcours, de marquer visuellement une place. Ici, par exemple, à la sculpture de Jean-Marie Apriou, on a également les deux terminus des métros, pour lesquels il y a eu aussi là des installations résolument sculpturales et très visibles, pour bien identifier ces nouveaux points forts. Mais par ailleurs, il y a aussi des œuvres qui sont beaucoup plus discrètes, qui sont quasiment camouflées dans le paysage urbain. Je pense aux grilles de Valentin Caron, aux abords du lycée et Chateaubriand, ou encore à l'œuvre de Charles Demeaux dans le tunnel du métro, qui peut complètement passer inaperçu. Et c'était aussi le but des artistes. On n'est pas forcément dans quelque chose de monumental et de démonstratif. Finalement, au-delà de créer des repères visuels, il s'agit aussi de transformer un peu subrepticement l'expérience quotidienne du déplacement en ville, venir mettre un petit grain de fantaisie et de créativité qui pourra passer aperçu ou pas, mais qui joue comme ça tout en douceur dans notre expérience de la ville.
Donc là, on est dans la station Sainte-Anne, au niveau des quais.
Oui, la jonction entre la ligne A et la ligne B. En fait, la place Sainte-Anne a été évidemment entièrement réaménagée à l'occasion notamment de l'arrivée du métro. Et dans les parages aux alentours, à l'extérieur, il y avait anciennement une grande peinture murale d'une publicité du bon, du bon, du bonnet. Et Camilla Faircloux, c'est une artiste qui s'intéresse énormément à la réappropriation des images et à la présence des images dans notre quotidien. Pas seulement des tableaux, mais aussi des pubs, des logos, voilà, de tout ce qui vient peupler notre univers visuel. Et donc elle a eu envie de faire un hommage à cette pub dont elle savait qu'elle allait disparaître, en reprenant le chat qu'on trouve sur plusieurs affiches et logos de Dubonnet, qu'elle a réinterprété en gardant cette même esthétique avec des couleurs très vives, des aplats francs, uniformes, avec des contours nets. Et donc ce chat maintenant vient nous faire un petit clin d'œil amical quand on circule entre les lignes A et B.
Effectivement, cette œuvre, elle arrive dans un contexte d'aménagement urbain, puisque la place Sainte-Anne a été revue, un bâtiment a été détruit, bâtiment sur lequel il y avait une fresque. auxquels les Rennaises, les Rennais, particulièrement les étudiants, je pense, faisaient référence pour se donner rendez-vous. C'était assez simple, rendez-vous Place Sainte-Anne, au pied de la fresque du Beau, du Bon, du Bonnet. Et l'artiste a choisi d'intituler son œuvre « Rendez-vous », avec la volonté de faire de cette nouvelle œuvre un point de rendez-vous. Il faut savoir que l'œuvre, elle est en deux parties. On a donc cette fresque qui fait plusieurs dizaines de mètres carrés, qui est à la jonction des deux lignes de métro, qui est bien repérée des usagers. Et puis on va monter à l'étage, voir un pilier, qui est un pilier structurel de la station de métro, et qui a été entièrement transformé en cœur. Donc ce pilier est en forme de cœur, un cœur bicéphale avec deux couleurs, le rouge et le bleu, qui sont les couleurs historiques du Beau, du Bon, du Bonnet. Et l'idée, c'est aussi d'être dans un symbole, c'est-à-dire que le cœur, c'est le point de jonction, le point de rassemblement, le cœur de ville aussi. Donc on est dans une approche symbolique qui nous parle du contexte dans lequel on évolue. Alors effectivement, sur les 7 œuvres, il y a une œuvre qui n'est pas encore installée, elle le sera mi-juillet. C'est l'œuvre d'Isabelle Cornaro, qui est une œuvre assez conséquente puisqu'il s'agit de 5 monolithes en béton qui pèsent chacun plus de 3 tonnes et des monolithes sur lesquels on a des surfaces d'affichage qui vont permettre à l'intérieur une programmation en lien avec le musée des Beaux-Arts puisque cette œuvre elle va atterrir à Maurepas à côté de la station Groschen et il se trouve que le musée va ouvrir aussi un espace dédié à des expositions et à des projets à Maurepas et donc il y a comme ça un dialogue entre l'espace du musée, l'espace extérieur et l'œuvre d'Isabelle Cornaro.
L'installation de cette œuvre à l'été, ça nous permet de dire qu'il y a un festival qui va bientôt débuter à Rennes, Exporama. Je pense qu'il faut expliquer en quoi ça consiste, Exporama.
Oui, cette tradition de commande publique à Rennes qui dure depuis des décennies, elle n'est pas seule dans le paysage culturel local. On a aussi la chance à Rennes d'avoir un tissu très dense d'acteurs, avec le FRAC Bretagne qui est un des plus grands FRAC de France, avec un musée des Beaux-Arts très actif dans le domaine de l'art contemporain, deux centres d'art labellisés, La Criée et 40 mètres cubes, avec un nombre d'associations aussi très investies, parfois dans des domaines très pointus aussi, des arts visuels, du graphisme, de la micro-édition, du court-métrage, etc. Et donc, depuis 2021, a été créé un temps fort estival qui s'appelle Exporama, qui a l'ambition de devenir un véritable festival d'art contemporain qui rassemble justement tous ces acteurs, toute cette constellation et qui rend mieux visible au public, local comme touristique, cette dynamique qu'il y a autour de l'art contemporain à Rennes.
Il y a deux expositions phares que le public va pouvoir découvrir.
Il y a deux expositions phares qui s'articulent. Nous avons au couvent des Jacobins Forever 60s, l'esprit des années 60 dans la collection Pinault, avec donc le retour pour la troisième fois de la collection Pinault sous forme d'exposition à Rennes. Et par ailleurs, une rétrospective consacrée à un artiste britannique mondialement connu dans le monde de l'art contemporain, Jérémy Dellard. Une rétrospective qui s'appelle Art is Magic et qui sera visible au Musée des Beaux-Arts, à la Criée et au FRAC Bretagne. Les deux expos phares, elles ouvrent donc le 10 juin. Ces deux expos phares, elles seront visitables avec un billet couplé. Le plein tarif est de 12 euros. Je précise aussi que la gratuité est accordée aux moins de 26 ans, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux titulaires du dispositif Sortir, aux personnes handicapées et aux groupes scolaires et extrascolaires.
Et on termine avec un arrêt à la station Via Silva.
Et puis là, l'œuvre qui est face à nous, d'Hugo Rondinone, qui est sur une approche beaucoup, beaucoup plus brute, c'est-à-dire qu'on a affaire à des blocs qui n'ont pas été dégrossis, qui sont extraits de la carrière, et qui sont simplement empilés les uns sur les autres dans un geste d'une extrême simplicité, et qui viennent comme ça composer par l'empilement une figure humaine, mais dans une représentation qui est presque une représentation qu'on aurait pu voir émerger à l'origine de l'art tel qu'il a pu se déployer dans les premières époques, si on ne tenait pas compte de la dimension de l'œuvre, puisque c'est une œuvre qui fait 6 mètres de haut, qui pèse 13 tonnes. C'est un défi technique de pouvoir ériger une sculpture comme celle-ci dans un espace qui est fréquenté par le public, à un endroit où elle est totalement accessible.
Alors cette œuvre, elle s'intitule The Sincere, et ici, cette particularité d'empiler des blocs de pierre pour créer une sculpture, c'est quelque chose qu'il a fait à plusieurs reprises au long de sa carrière. Par exemple, il a empilé des blocs de rochers comme ça, dans le désert du Nevada, et donc on était à la limite avec le Land Art. Et ce qui est amusant à observer aussi, c'est que finalement, toutes ces œuvres qui créent un parcours le long de la ligne B du métro, elles créent aussi des échos et des résonances entre elles. Ici, cette statue très frustre, faite juste de quelques blocs qui suggèrent une tête, un buste et deux jambes, ça me fait écho aussi à ce qu'on a vu sur le parvis de la gare, avec ce cheval très fragile, un peu chancelant, où on avait donc d'un côté le détournement de la statue équestre, et ici le détournement de la statue tout court, donc un peu des grands classiques de la statuaire publique qui sont revisités. Et puis ce côté ancestral de la statue faite à partir de blocs de pierre, ça me fait aussi penser à l'installation cette fois-ci très technologique de Charles de Meaux, qui faisait référence à la peinture pariétale et qui nous faisait revenir un peu aux origines de l'art. Donc voilà, c'est aussi un voyage qui va permettre de construire comme ça des petits échos de rêverie en rêverie, tout en transformant le paysage urbain.
En raison d'un colis la station gare n'est pas desservie. Merci de votre compréhension.
Toutes les femmes que tu as aimées, je les reconnais. Quelque chose dans leur regard se tait. Chaque femme que tu as laissée seule sur le quai recevra de ma part un bouquet.
Son banquet sur Canal B, un morceau qu'on retrouve sur l'album I Love You, sorti en 2011 sur le label EMI Music France. C'est le quatrième des cinq disques réalisés par cette autrice, compositrice et interprète française qui s'est dernièrement lancée, tiens, dans la musique de film pour le long métrage Corsage. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. On poursuit et termine cette émission avec la recommandation du jour. Et oui, car chaque jour en fin d'émission, je vous donne des conseils de choses à vous mettre dans les oreilles, à regarder, à lire ou parfois à vivre. Là, il s'agit d'un événement sportif parce que autant le sport compète, c'est pas trop mon truc, mais quand il est question de nous et de vous inciter à bouger et qu'en plus il s'agit d'un projet associatif, bah, ça a du sens de vous en parler. Samedi 3 juin de 9h30 à 20h, l'association rennaise Ballsy organise le Ballsy Basketball Festival en partenariat avec trois clubs rennais, Cercle Polbert Basket, Rennes Tour de et le Stade Rennais Basket. Alors tout au long de l'année, cette association, Ballsy, elle organise des événements pour rendre le sport féminin et plus particulièrement le basket visible. Samedi 3 juin, la structure vous donne rendez-vous toute la journée dans deux gymnases, le gymnase Guin-Gingné et le gymnase Tour d'Auvergne. Et trois temps forts seront proposés sur la journée de la formation sous forme de table ronde pour s'engager en tant que dirigeante ou arbitre dans un club. Ça, c'est en compagnie du comité d'Ille-et-Vilaine de basket et plusieurs intervenantes de club. Au programme également de l'initiation avec des ateliers basket pour les 7-14 ans. Et puis 12 équipes départementales s'affronteront lors de tournois en 5 contre 5. Pour tout ça, il faut penser à s'inscrire. Plus d'infos sur le site internet balsie.fr, B-A-2-L-S-I-E. Et puis il y a un numéro de téléphone, le 06 77 73 39 55. C'est terminé, une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.